Alors, je voudrais ce soir vous parler essentiellement de la méthode de Chauvet et, subsidiairement, vous donner quelques aperçus sur les résultats auxquels il est parvenu et auxquels nous parviendrons avec lui lorsque nous aurons déchiffré la suite des versets qui composent les premiers chapitres de la Genèse. À la fin de la dernière conférence qui avait été consacrée à la vie, à la personnalité, à la pensée, à l'œuvre en général du docteur Chauvet, j'avais cité l'abbé Eugène Berthaud, Jean Saïrides, qui avait lui-même résumé les résultats auxquels Chauvet était parvenu. Je voudrais tout de suite vous dire qu'autant j'espère être clair, et j'espère que vous m'aiderez à l'être grâce à vos questions en ce qui concerne la méthode, autant je n'espère pas, je voudrais même dire que je ne le souhaite guère, être clair en ce qui concerne les aperçus sur les résultats auxquels est parvenu le docteur Chauvet. Car il s'agit d'un ensemble tout à fait grandiose, il s'agit véritablement de toute la doctrine ésotérique, et pour bien la comprendre, il faut avoir suivi le déroulement des versets des 10 premiers chapitres de la Genèse, lus de manière ésotérique à la façon de Chauvet. Donc, je vous demande de bien vouloir considérer que nous essaierons d'être aussi clairs que possible en ce qui concerne la méthode, mais qu'il s'agit en ce qui concerne la doctrine que cette méthode permet de déceler dans les 10 premiers chapitres de la Genèse, eh bien là, nous nous contenterons, si vous voulez, de quelques lueurs, et si parfois certains mots paraissent un peu obscurs, je vous demanderai simplement de les retenir comme une sorte d'incitation, de suggestion, et j'espère qu'au cours des conférences suivantes, la lecture de la Bible à la manière de Chauvet, selon la méthode que nous allons voir, permettra d'éclaircir ce qui reste obscur. Donc, l'abbé Berthaud résume ainsi la doctrine de la création telle que la lecture ésotérique des 10 premiers chapitres de la Genèse permet de la résumer. J'ai dit création, mais il y a une distinction fondamentale à poser dès le départ entre la création à proprement parler et l'effectuation, la réalisation. C'est la clé. Pour Chauvet, la Genèse expose d'abord comment Dieu a conçu son plan et les moyens de les réaliser, et a transmis aux moyens de les réaliser, car ces moyens sont actifs, ce plan, et commente ensuite par les moyens que Dieu lui-même avait créés, le plan a été effectué, a été réalisé. C'est ce que Berthaud expose ainsi. Le Verbe de Dieu crée ses puissances effectuantes. Ce sont les Elohim. À ces puissances effectuantes, il communiquera son plan créateur. Puis les principes et les substances dont ces Elohim auront à se servir avec le concours de l'Adam primordial et du serpent de la Genèse. Cet Adam primordial et ce serpent ayant été également créés par Dieu, pour effectuer, ce qu'on traduit souvent par créer, mais il s'agit ici d'effectuation, c'est-à-dire d'une forme de création en quelque sorte au second degré. Donc cet Adam primordial et ce serpent de la Genèse ayant été également créés par Dieu pour effectuer, Dieu crée mais eux ne feront qu'effectuer, conformément aux lois célestes, c'est-à-dire aux cieux, Shamayim, autant marqués par la Providence, pour effectuer donc le monde de l'univers sensible. Cette effectuation de l'univers sensible nous sera racontée en texte ésotérique sous le couvert de la fabulation du déluge. Par conséquent, jusqu'au déluge, il s'agit véritablement de la création, c'est-à-dire de l'œuvre de Dieu, et à partir du déluge, y compris le déluge, il s'agira de lire en mode ésotérique l'effectuation, le récit de cette création en quelque sorte secondaire qui n'est pas véritablement une création, qui est une réalisation opérée par les puissances créées directement par Dieu. Et aussi bien, conclut Berthaud, ce sera Noé en tant que principe cosmogonique qui, au lieu du serpent maudit et déchu, sera le réalisateur sous le contrôle des Elohim et conformément aux lois célestes établies par le Créateur. Je voudrais dégager déjà de ce résumé un schéma ternaire qui est fondamental. Chauvet considère, et il est là en accord avec toutes les traditions, qu'il y a trois mondes. Le monde des essences et des principes, qu'il rapporte particulièrement à la première personne de la Sainte Trinité, c'est-à-dire au Père. Le monde des lois et des formes intangibles, qu'il rapporte au Fils, au Verbe. Et le monde des fins, le monde des formations naturelles sensibles, qui comporte une cosmogonie, qui comporte une androgonie, y compris une sociologie, mais non pas de théogonie, car la théogonie sera la révélation propre au Nouveau Testament. La lecture exotérique de la Genèse nous renseigne sur les événements du troisième et dernier de ces mondes, c'est-à-dire celui des faits et des formations naturelles sensibles, sur la cosmogonie, sur l'anthrogonie, sur la sociologie. Ce troisième monde étant rapporté à la troisième personne de la Sainte Trinité, c'est-à-dire au Saint-Esprit. En revanche, la lecture ésotérique de la Genèse nous renseigne sur les deux premiers mondes, le monde des essences et des principes, le monde des lois et des formes intangibles. L'abbé Eugène Berthaud avait coutume d'expliquer à ses interlocuteurs qui n'avaient pas de formation philosophique et qui par conséquent ne voyaient pas tout le contenu des termes essence, essentialité ou des termes forme ou même des termes effectuation, l'abbé Berthaud avait coutume de dire que l'exemple suivant permettait de saisir, de suggérer au moins ce dont il s'agit. Un homme se propose de tisser une toile. L'idée de tisser une toile, c'est l'essence, c'est l'essentialité. Il se propose de la tisser selon un certain modèle. Ce modèle de toile, c'est la forme. Et puis, il réalisera, il effectuera ce projet. Et ce résultat, ce sera à proprement parler l'effectuation. Et Berthaud ajoutait que, contrairement à l'homme, Dieu avait le pouvoir de donner aux essences, aux essentialités, et surtout aux formes, aux modèles, une puissance active, et que la puissance active des modèles, des formes, c'était Adam, c'était le serpent de la Genèse, et après Adam et le serpent de la Genèse, après la malédiction que leur chute leur avait value, ce serait Noé qui prendrait leur place et qui donnerait l'activité à ses formes. Je voudrais que de ce que nous avons dit la dernière fois, s'agissant du docteur Auguste Chauvet, nous retenions, outre la biographie sur laquelle je ne veux pas revenir, son intérêt pour l'occultisme, sa vénération pour Saint-Yves d'Alvèdre, son souci social et politique au sens le plus élevé du terme, la constance et le constant approfondissement de sa foi chrétienne associée à une recherche de la connaissance qui le menait vers une véritable gnose, son souci par conséquent d'un ésotérisme, et sa certitude que cet ésotérisme était universel, que toutes les traditions et que tous les livres sacrés de toutes les traditions contenaient ces quatre vérités premières, Dieu est trine, l'homme de tous les vivants possède une âme spécifique créée à l'image de Dieu, car l'âme est directement créée par Dieu, l'âme humaine. Troisième point commun à toutes les traditions et à retrouver dans tous les livres sacrés, l'homme est déchu. Quatrième et dernier point, l'homme a été racheté par une incarnation de la divinité même. Ces quatre grands points de toute tradition, Chauvet était convaincu qu'on les trouvait d'une manière parfaite dans la tradition judéo-chrétienne et par conséquent qu'on pouvait le mieux les lire dans la Bible, Ancien et Nouveau Testament, la Bible judéo-chrétienne. Il n'est pas douteux que le désir de Chauvet était en quelque sorte ambivalent. Il s'agissait d'une part de s'instruire et d'aider à s'instruire en trouvant ces vérités traditionnelles dans la Bible lue ésotériquement, mais il s'agissait aussi de prouver, grâce à cette lecture ésotérique, que ces vérités traditionnelles se trouvaient plus claires, plus explicites dans la Bible, dans le livre de la tradition judéo-chrétienne, que dans aucun autre livre sacré d'aucune autre religion. Chauvet a proposé sur l'ésotérisme, sur la tradition universelle et sur les quatre points principaux de cette tradition, auxquels je faisais allusion tout à l'heure, sur la langue hébraïque et son histoire, sur l'histoire aussi du texte de la Bible, un certain nombre de théories auxquels je ne crois pas qu'il soit utile de nous arrêter. Ce qui est important pour nous à retenir, c'est ceci. Selon Chauvet, les 10 premiers chapitres de la Genèse, qui ne sont pas écrits dans des caractères venant de Moïse, ni dans la langue venant de Moïse, mais dont le contenu vient de Moïse, ces 10 premiers chapitres de la Genèse, et seulement ces 10 premiers chapitres, sont capables d'une double lecture, exotérique d'une part, ésotérique d'autre part. La lecture exotérique se fait en tenant compte de la prononciation des lettres qui composent chaque mot. La lecture ésotérique s'opère en analysant chaque mot, c'est-à-dire en tenant compte de la valeur idéographique de chacune des lettres qui constituent ce mot. La lecture ésotérique est donc un déchiffrement, et un déchiffrement qui ne porte pas sur la valeur hiéroglyphique des lettres, car il est certain qu'au départ, les lettres avaient une valeur hiéroglyphique, qu'elles représentaient des objets, qu'elles étaient des images. La lecture ésotérique, selon Chauvet, ne procède pas à partir de cette valeur hiéroglyphique, mais à partir d'une valeur idéographique. Il advient que la valeur hiéroglyphique, c'est-à-dire la valeur figurative, si vous voulez, et la valeur idéographique, c'est-à-dire les concepts, et l'idée multiple qui est associé à une lettre coïncide. Il arrive dans d'autres cas que la valeur hiéroglyphique de la lettre nous reste obscure et dans d'autres cas aussi que la valeur idéographique soit très éloignée de la valeur hiéroglyphique. Ça n'est pas la valeur hiéroglyphique qui importe, elle ne nous intéresse que dans la mesure où elle est analogue à la valeur idéographique, car à ce moment-là, elle permet de mieux comprendre la valeur idéographique. Mais c'est cette valeur idéographique qui importe. Alors, je ne vous dirai pas comment Chauvet considère que le texte de la Genèse a été écrit. Il estime que le prophète Daniel a joué le rôle principal, Daniel avec Esdras probablement, comme secrétaire, et que tous les deux ont mis en forme cet enseignement qui ensuite a été traduit, dont le sens exotérique a été précisé par les Septante, c'est-à-dire que les Septante ont donné une version tenant compte de la valeur de chaque mot tel qu'il était prononcé. ce qui est important pour Chauvet, c'est de lire l'ésotérisme, c'est-à-dire de déchiffrer chaque mot en tenant compte de la valeur idéographique des lettres. Entre l'ésotérisme et l'exotérisme, Chauvet se refuse à voir une contradiction. Il s'agit, dit-il, de deux niveaux différents. Mais il s'agit bien de deux niveaux différents, et il ne s'agit pas dans l'ésotérisme d'un simple prolongement de la valeur banale, de la signification commune des termes. J'ai parlé de lettres, et il s'agit effectivement des lettres de l'alphabet hébraïque. Tout à l'heure, on m'a posé la question, est-ce qu'il est nécessaire de parler l'hébreu pour comprendre l'ésotérisme de la Genèse selon Chauvet? Ce n'est pas nécessaire de parler l'hébreu, ce n'est même pas nécessaire de le lire, encore que ce soit souhaitable, mais il est évidemment utile et recommandable de connaître le graphisme des 22 lettres de l'alphabet hébreu. Alors, pour ceux qui ne le connaîtraient pas ou qui l'auraient oublié, nous avons placé sur ces tableaux les 22 lettres de l'alphabet hébraïque avec une translittération qui n'est pas une translittération toujours scientifique, mais en tout cas qui est suffisante pour le but que nous nous proposons. Peut-être faut-il dire quelques vérités élémentaires, à savoir que l'alphabet hébreu comporte 22 lettres, que certaines de ces lettres s'écrivent différemment lorsqu'elles sont finales, qu'elles ne s'écrivent lorsqu'elles sont au commencement ou au milieu du mot. Peut-être faut-il dire aussi que certaines lettres de l'alphabet hébreu portent un point en leur milieu, je ne voudrais pas, non, je pense que c'est pas inutile, enfin, tout le monde ne le sait peut-être pas. Bon. Certaines lettres l'on peut aisément se rappeler par un moyen mnémotechnique qui est Begad Kefat, les lettres, ne tenez pas compte de voyelles, enfin, ou des sons vocaliques, ne tenez compte que des consonnes, Begad Kefat désigne des lettres qui, lorsqu'elles ont un point central, se prononcent d'une manière différente de la manière dont elles se prononcent lorsqu'elles n'ont pas ce point central, enfin ce point qui est ici par exemple, enfin, voilà, alors ceux qui connaissent un peu d'hébreu savent que ça s'appelle le dagesh et qu'il y a deux sortes de dagesh. Il y en a un qui donne à la lettre une valeur qu'on dit parfois de redoublement, mais en fait qui est plutôt d'allongement que de redoublement. Et puis, il y a une autre forme de dagesh qui, précisément, modifie la prononciation et donne une prononciation dure au lieu d'une prononciation aspirée. Bien, je signale tout de suite que cette différence entre la prononciation avec dagesh ou sans dagesh du Begad Kefat est une différence qui n'est guère sensible chez les juifs orientaux. Alors on peut faire comme les juifs orientaux et pour notre propos. Nous n'avons pas besoin d'en tenir beaucoup compte. En tout cas, dans la plupart des cas, nous prendrons la prononciation de la lettre avec ce dagesh qui en modifie la prononciation, et c'est pourquoi, sur ce tableau ici, auquel nous allons revenir, vous voyez que les lettres comportent un point central. Donc, voilà ici, tout simplement, l'alphabet hébreu, avec, dans certains cas, la forme finale des lettres, voilà la translittération, et la prononciation, la double prononciation donc des lettres que l'on peut se rappeler avec la formule mnémotechnique Begad Kefat. Je pense qu'il est utile que vous connaissiez, si vous voulez poursuivre cette étude, l'alphabet hébreu. Il n'est pas nécessaire de le copier ici, vous le trouverez très facilement, ne serait-ce que dans un bon dictionnaire, ou encore mieux, vous pouvez vous procurer une petite méthode de lecture de l'hébreu. Enfin, c'est extrêmement facile. Comment allons-nous donc procéder pour lire ésotériquement la Bible? D'abord, une seule grammaire, la grammaire classique de l'hébreu, et non pas une nouvelle grammaire, comme l'avait voulu Fabre d'Olivet. Ensuite, nous allons prendre les 10 premiers chapitres de la Genèse, je l'ai dit, et seulement les 10 premiers chapitres de la Genèse. Nous allons considérer chaque mot, mais il faut bien saisir que tous les mots n'ont pas une signification ésotérique. Seulement un certain nombre de ces mots possèdent une signification ésotérique, et ces mots sont incorporés dans un récit suivi. Il ne s'agit donc pas de trouver à tout prix de l'ésotérisme dans tous les mots. Chauvet a remarqué que la méthode qu'il propose ne s'applique, je le disais, qu'aux 10 premiers chapitres de la Genèse, mais qu'il y a beaucoup plus de mots à valeur ésotérique, à signification ésotérique dans les premiers chapitres que dans les derniers de ces 10 premiers chapitres. C'est-à-dire que le nombre de mots à signification ésotérique va décroissant. J'ai dit aussi que le sens ésotérique avait une valeur en soi et il ne sert pas seulement à masquer ou à transmettre le sens ésotérique. Sur son plan, c'est une signification qui a une valeur sur son plan, dans son monde, dans le troisième monde dont je parlais tout à l'heure, troisième et dernier, alors que le sens ésotérique s'applique aux deux premiers. J'ai dit aussi qu'il s'agit de faire de l'ésotérisme et non pas de l'allégorisme. Nous aurons au départ quatre règles. En préambule, on peut dire que tout ce qui est exprimé en écriture ouverte doit être l'image et le symbole sensible de la réalité intelligible voilée sous le sens mystérieux de l'écriture. Si la correspondance ne peut pas se retrouver, la valeur idéographique des signes composants doit toujours suffire à elle seule à faire découvrir, à condition qu'il existe réellement, le sens ésotérique du texte. Après ce préambule, donc, quatre règles. Première règle, nous partirons des différents sens concrets attribués par les lexiques aux termes étudiés, c'est-à-dire sens exotérique. Deuxième règle, nous choisirons parmi ces sens celui qui paraît le mieux convenir aux termes compte tenu du milieu et dans ce milieu de l'ordre hiérarchique auquel se réfère le passage du texte à traduire. Troisièmement, après être parti et avoir choisi, il faut contrôler. Nous contrôlerons le sens par la valeur idéographique des signes composants, la base radicale, la racine simple ou composée envisagée. Et nous n'accepterons le sens nous avions entrevu que si ce contrôle par la valeur idéographique le confirme. Quatrièmement, si aucun des sens classiques communément adoptés ne résiste à l'épreuve, nous n'hésiterons pas à rejeter les sens classiques et à prendre simplement en compte la signification qu'une analyse de la valeur idéographique pourra nous fournir. Avant d'arriver à cette extrémité, j'ai dit que l'on devait, et avant même de contrôler idéographiquement, on devait partir du sens qui paraissait s'adapter le mieux et voir si il pouvait être transposé au plan ésotérique. Je vais donner un exemple. Le mot qui signifie terre, le mot aretz. Aretz signifie terre au sens exotérique, c'est-à-dire globe ou portion limitée. Eh bien, à partir de ce sens exotérique, une démarche ésotérique va nous révéler successivement trois significations de plus en plus profondes. Aretz, ce sera la condensation et même les condensations en mouvement dans l'espace, dans un orbe ou vers un but déterminé. Ce sera ensuite l'ensemble des condensations et le mouvement en soi de cet ensemble, et non plus des condensations particulières et le mouvement propre à chacune de ces condensations. Enfin, troisième et dernier sens ésotérique, donc à partir de ce sens exotérique qui nous a paru le plus approprié, Aretz, la terre, exotériquement parlant, sera le principe causal qui produit, qui dirige le mouvement astral dans sa totalité. Peut-être dois-je dire entre parenthèses que les Septante auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure ont procédé de la manière exactement inverse de celle que Chauvet nous propose et que nous allons essayer de suivre. C'est-à-dire que les Septante, selon Chauvet, sont partis du sens général hiéroglyphique des signes littéraux qui les ont concrétisés autant qu'il leur a été possible pour en faire les éléments d'un récit exotérique. Enfin, dernier avertissement, je le répète après l'avoir donné tout à l'heure, l'ésotérisme ne se relève, ne se manifeste que dans un certain nombre de mots qui sont reliés entre eux par un récit en langue ouverte. Et ce récit se déroule linguistiquement selon les règles de la grammaire hébraïque classique. Enfin, je précise ce que je disais aussi tout à l'heure, dans les trois premiers chapitres de la Genèse, presque tous les mots, j'ai dit qu'il y en avait beaucoup, Chauvet dit que presque tous ont un sens ésotérique, et que le nombre diminue à mesure qu'on passe du monde des principes au monde des lois, et de celui-ci au monde des faits. Et je vous indiquerai tout à l'heure comment les chapitres de la Genèse, au moins les premiers des 10 premiers chapitres, sont caractérisés par Chauvet, puisque certains traitent du monde divin, d'autres du monde des lois, d'autres du monde de l'effectuation, et que à l'intérieur de chacune de ces sections, les chapitres sont subdivisés. Ce qui me paraît beaucoup plus important maintenant, c'est la valeur idéographique des lettres, car c'est véritablement là la clé de la méthode de Chauvet. Il y a beaucoup de raffinements. Vous pensez bien que ça n'est pas simple. Ça ne peut pas être simple. C'est une méthode qui est une méthode extrêmement complexe. Je pense que ce serait une erreur, parce que ce serait vain, d'exposer les règles d'une manière abstraite maintenant. En étudiant chaque verset, nous verrons comment ces règles peuvent s'appliquer. Ainsi, Chauvet distingue entre le signe. Le signe, c'est la base primordiale de la radicalité ésotérique. Et puis, il y a la racine bilitaire, il y a la racine trilitaire, c'est-à-dire avec deux ou avec trois lettres. Et Chauvet dit aussi que non seulement on doit tenir compte dans une lecture ésotérique de la racine trilitaire et analyser d'abord isolément chacune des lettres et voir comment ensuite ces trois valeurs idéographiques respectives se combinent, mais on doit également tenir compte des lettres affixes, infixes ou suffixes, et également de certaines autres lettres dont la grammaire hébraïque ne voit pas toujours très bien quel est le sens, mais qui modifient le sens ésotérique, sinon le sens exotérique, car elles ont elles aussi leur valeur idéographique, et cette valeur idéographique doit être prise en compte lorsque nous essayons de déceler quel est le sens d'un mot du point de vue ésotérique, c'est-à-dire en tenant compte de la valeur idéographique de chacune des lettres qui constituent la racine. Alors nous allons, si vous voulez, passer en revue les 22 lettres de l'alphabet hébreu. Ces deux tableaux vous présentent ces 22 lettres, leur prononciation, leur nom, écrit en caractère latin, et puis quelques concepts, quelques idées qui m'ont paru résumer le mieux la valeur conceptuelle que Chauvet leur attribue. Je voudrais tout de suite vous dire qu'il ne faut pas du tout, si la méthode n'est pas simple, le tableau des valeurs idéographiques n'est pas simple non plus, et ça ne peut pas l'être. Il ne s'agit pas de considérer que ces idées sont tout à fait exclusives, ce sont simplement des indications, ce sont les idées qui m'ont paru être les idées cardinale dans l'interprétation que Chauvet donne de chacune de ces lettres. Je vais vous en donner maintenant quelques autres, mais bien entendu, il faut rassembler les éléments qui sont épars dans toute l'interprétation des 10 premiers chapitres de la Genèse, et au départ, nous devons nous en tenir aux significations principales. Donc, la première lettre, Aleph, c'est l'absolu, c'est l'unité. Chauvet considère que l'origine hiéroglyphique, c'est-à-dire à quelle image correspond cette lettre, est obscure et il passe. Donc Aleph, c'est l'absolu, c'est l'unité. Chauvet remarque aussi que Aleph est la forme inversée de la racine Phla, et que cette racine Phla signifie être admirable au-dessus de tout sensible et de tout intelligible, et que l'Aleph participe de cette signification-là. Aleph ne modifie pas le sens du signe, le sens de la base, le sens de la racine auquel il est joint, mais il confère la plénitude et la puissance aux signes qui correspondent aux mondes intelligibles et sensibles. Je ne vous parle pas de la valeur numérique qui est attachée à chaque lettre dans l'écriture hébraïque et dont la Kabbale fait grand usage, car l'ésotérisme de la Genèse, selon Chauvet, n'en tire pas parti. La deuxième lettre, donc, c'est le Bet. Le Bet dont l'hiéroglyphe est un abri, ou plus exactement, qui est l'hiéroglyphe d'un abri d'une maison. Le Bet signifie le contenu et le contenant, l'enveloppe. Le bête désigne tout centre de condensation et d'obnubilation des forces, dans quelque ordre hiérarchique que ce soit. Le bête est la lettre de la Vierge divine, c'est la lettre de la divine sagesse. Le guimel, dont Chauvet dit qu'il est peut-être l'hiéroglyphe du pharaon, mais il faut laisser le point d'interrogation, le guimel réfère à la puissance de coagulation, de condensation, de compression. Le guimel est le signe de la génération, de l'organisation. C'est le générateur naturel actif. Il faut vous familiariser avec le vocabulaire de Chauvet. Dalet serait l'hiéroglyphe d'une hache plate. Et ici, vous voyez, je ne soulignerai pas chaque fois, mais je le souligne ici, ce que j'y pense, que la valeur idéographique peut être en prolongement de la valeur hiéroglyphique, puisque à cette valeur hiéroglyphique de H plate correspond une valeur idéographique de division, de distinction, de domination, mais aussi de dispensation et de don. Le « et » dont on ne sait pas trop de quoi cette lettre est l'hiéroglyphe, est une lettre aspirée. C'est le souffle vital, par conséquent. Et l'idée principale est l'idée de la vie en général. Le « ou le « vav », signification hiéroglyphique obscure, réfère à l'idée de substance unitaire et unitive, c'est l'Esprit Saint. C'est le conjoncteur substantiel, c'est l'inverseur et c'est l'unisseur. Le Zaïn est l'hiéroglyphe de la flèche ou du harpon. Correspond à l'idée de pénétration, de fixation. Le Hé, dont on ne sait trop de quoi cette lettre est l'hiéroglyphe, correspond à la vie, comme cette lettre doucement aspirée qui était le hé tout à l'heure, mais ici il s'agit de la vie communiquée, de la vie spécifiée, de la vie existentielle. Le tête est l'hiéroglyphe du toit d'une maison. Idée de garantie, de protection, principe protecteur, milieu, milieu tutélaire, milieu bouclier. Le yod renvoie à l'idée de réflexion active qui identifie l'absolu dans tous les mondes. Le yod marque l'activité. L'activité en tant que principe. L'activité créatrice, l'activité paternelle, l'activité mâle, le yod est mâle, le yod est le père, le yod est le centre actif de toute formation définie. Nous avons ensuite le kaf, qui est l'hiéroglyphe de la main. Idée de condensation, de compression, de similitude. Le lamed, hiéroglyphe du bras en extension, idée d'extension et d'expansion, là aussi, comme dans un certain nombre d'autres cas, j'en ai cité un, liaison entre hiéroglyphe et idée. Idée du lamed, donc l'extension et l'expansion, idée d'exaltation, idée de suprématie. Le même. Ici encore, nous aurons le lien entre l'hiéroglyphe et l'idée. Le même est l'hiéroglyphe du sein maternel. L'idée est essentiellement celle de la maternité. C'est la puissance maternelle réceptrice et en même temps reproductrice. C'est le complément du yod. Le même est femelle. C'est d'une part la puissance réceptrice et fécondable, d'autre part la puissance fécondée et gestative, et aussi, de troisième part, c'est la puissance réalisatrice. C'est la réceptivité et la réalisation, c'est le signe de l'effectuation médiate. Le Nun, hiéroglyphe obscur, le Nun, c'est la nature. Qu'il s'agisse de la nature divine, qu'il s'agisse de la nature créatrice, natura naturans, qu'il s'agisse de la natura naturata, de la nature créée, naturée. Le Nun, c'est l'effectuation intelligible ou sensible, c'est le nœud naturel, c'est la fixation, c'est le repos. Le Nun, c'est aussi la mort. Le Samek, valeur hiéroglyphique, c'est le serpent levé. Idée, fixation et direction du mouvement. Centre secondaire dans le monde naturel. C'est à la fois la révélation et l'ouverture, la fermeture et l'enveloppement. Aïn, hiéroglyphe obscur, mais idée bien précise d'obscurcissement et d'obscurité de l'énergie en voie de condensation de la matière primordiale. Le fait, c'est une lettre dont la valeur hiéroglyphique est bien connue, puisque c'est celle de la bouche. Là aussi, liaison entre hiéroglyphe et idée, puisque la valeur idéographique du fait, c'est la bouche, la parole, le verbe qui profère, le verbe qui crée, par la parole active, par la parole vivante. Le fait, c'est le principe de dégagement d'une énergie préalablement condensée. Le tsadé, hiéroglyphe obscur, c'est le mouvement vers un but, et c'est aussi le but, c'est le rebondissement. Le qaf, qui représente un marteau, un marteau brisant. Le qaf, c'est la puissance condensante et comprimante, c'est la puissance qui procure une tension en vue de l'action. Resh, c'est l'image du serpent dressé, et c'est, dans une certaine continuité avec cette image, l'idée d'une énergie spécialisée, sous la forme d'un mouvement intime ou extériorisé. C'est l'irradiation universelle, c'est la cause motrice, et c'est en même temps l'effet produit par cette cause. Le Resh, c'est la royauté. Le Shin représente un triangle équilatéral avec la bisectrice. C'est donc le symbole, l'hiéroglyphe, du monde effectué et de son axe actif. L'idée connotée est celle d'une puissance affective active, celle du verbe comme réalisateur effectif et conservateur. Le Shin, c'est le feu primordial, c'est la fixation, c'est la division. Enfin, le taux ou le tav, la dernière lettre, c'est l'absolu comme fin. C'est la dernière lettre et c'est la fin. C'est la sphère, c'est la limite, c'est le cercle de l'infini, c'est l'infini. C'est la puissance expansive d'un centre actif tendant vers sa limite spécifique. C'est la limite même de cette puissance, c'est le mouvement, et c'est le mouvement immobile. Je voudrais vous donner maintenant un exemple de la manière dont, à partir de ces valeurs idéographiques et en suivant les règles dont j'ai donné les principales, on peut percevoir la signification ésotérique d'un mot. Nous allons prendre, si vous voulez, le mot. Est-ce que quelqu'un sait écrire le... Ce mot que tout le monde connaît, pour vous aider, Aour. Aour. C'est un exemple qui est, je crois, particulièrement significatif. En langage ouvert, en langage exotérique, ce mot signifie en tant que verbe briller et en tant que substantif lumière. Maintenant, nous allons prendre chaque lettre l'une après l'autre. Nous avons première lettre, Aleph. Résumons, Aleph, c'est-à-dire absolu et infini. Nous allons avoir ensuite le vav, le waou, c'est-à-dire la substance conjonctive unitaire en soi. Enfin, resh, si vous vous reportez bien entendu à ce tableau, vous avez tout de suite la réponse. Resh qui désigne le mouvement, pour résumer. Alors, selon la méthode de Chauvet, il convient de partir du sens le plus concret. Le sens le plus concret, c'est le sens du resh. Le resh qui signifie le mouvement, quoi de plus concret que le mouvement. Le resh dans le monde divin, c'est le mouvement en soi, c'est l'énergie pure. Nous sommes en train, si vous voulez, de qualifier la signification générale en fonction des trois mondes qui constituent la grille véritablement universelle. Resh, mouvement, sera donc dans le monde divin, le mouvement en soi, l'énergie pure. Dans le monde des lois, c'est la force correspondante aux lois éternelles, c'est l'électricité, c'est le magnétisme, la lumière, la chaleur, c'est aussi la vapeur, les gaz, les explosifs. Enfin, dans le monde physique, le troisième et dernier monde, ce sera l'effet activé par la force extérieure, le mouvement passif, ce seront les astres, les corps vivants mobiles, depuis l'électron jusqu'aux astres eux-mêmes. Cette signification de mouvement, que nous avons qualifiée selon les trois mondes, va être elle-même modulée par la signification des deux autres lettres qui constitue cette racine trinitaire, comme la quasi-totalité des racines hébraïques. Comment va-t-elle être modulée, cette signification? Eh bien, le Aleph, idée de l'absolu, modulant l'idée de mouvement, je garde mouvement en général, en gardant en arrière-plan ces qualifications particulières que les trois mondes nous obligeaient à porter. Donc, l'idée de mouvement qui correspond au Resh va être modulé par l'Aleph signifiant l'absolu, de sorte que nous aurons c'est-à-dire que ça n'existe pas, mais enfin si ça existait, ça n'est qu'un des moments de la démonstration, si ça existait, cela signifierait l'énergie absolue en soi, le mouvement absolu en soi, l'énergie absolue en soi. Et puis, nous allons avoir la troisième lettre de cette racine, c'est-à-dire le vav ou le wau, qui signifie substance unitive. Si donc nous ajoutons cette idée, nous combinons cette idée avec les deux idées précédentes, l'idée de mouvement d'abord, puis l'idée de mouvement plus absolu qui nous donnait, je schématise, l'idée d'énergie absolue en soi, si nous y ajoutons l'idée de la substance unitive, nous allons obtenir l'idée d'énergie universelle substantielle, à la fois incréée et créée, laquelle est symbolisée physiquement par la lumière. Lumière, c'est le sens exotérique du mot « aor ». En résumé, Aor signifie lumière-énergie, aussi bien en tant que lumière-énergie spirituelle pure, qu'en tant que lumière-énergie intelligible, qu'en tant que lumière physique. Voilà un exemple de la manière dont on peut analyser un mot. Et c'est en analysant chacun des mots comportant un sens ésotérique, et pour savoir s'il comporte un sens ésotérique, il faut essayer, selon la méthode de Chauvet. Bon, nous n'aurons pas essayé, puisque Chauvet l'a fait en quelque sorte pour nous, et que donc nous n'aurons qu'à le suivre, mais on s'aperçoit ainsi que une véritable découverte s'opère, et que sous l'apparence d'un récit exotérique, sous cette apparence qui a sa réalité particulière, qui a sa réalité dans son ordre, des événements advenus sur notre planète, se cache en réalité toute l'histoire de la création divine et de l'effectuation, de la réalisation du plan divin par les puissances que Dieu avait assignées à cette fin. Et alors, je voudrais maintenant que vous avez donné, je pense, une idée de la méthode. Je crois qu'il serait inutile d'en discuter d'une manière abstraite et qu'il vaut mieux la prochaine fois passer au premier verset du premier chapitre de la Genèse, parce que là, vous verrez comment ça marche. Ici, ce n'était qu'un mot. Par conséquent, c'était un exemple d'application de la méthode, mais pour avoir un exemple qui comporte non pas une idée, mais un élément de doctrine suivi, et non pas simplement une valeur idéographique, mais une véritable idée doctrinale, il faut bien sûr l'appliquer à une phrase, et la phrase que je vous proposerai de prendre la prochaine fois, ce sera celle qui est d'ailleurs déjà ici, et qui est le premier verset du premier chapitre de la Genèse. J'ai commencé en vous rappelant dans les termes de l'abbé Berthaud les résultats auxquels était parvenu Chauvet à la suite de ce déchiffrement des 10 premiers chapitres de la Genèse. Je voudrais, pour terminer, revenir sur ces résultats et vous en donner un aperçu un petit peu plus étendu, mais dont je ne me dissimule pas, et je ne vous ai pas dissimulé tout à l'heure, qu'il comportera un certain nombre d'obscurités. Mais je pense que cela vous donnera une idée des idées vers lesquelles nous emmène Chauvet après les avoir lui-même découvertes. Et vous verrez que cette méthode littérale permet d'entrevoir des réalités, des vérités ésotériques extrêmement élevées et que vous reconnaîtrez souvent au passage. À quoi arrive-t-on ? Eh bien, voilà comment je vous proposerai de résumer ces résultats. Dieu est vie. Dieu est intelligence. Dieu est amour. Dieu est aussi action. Il ne peut pas ne pas agir. La création de Dieu par excellence, c'est celle d'êtres intelligents et amoureux. Capables d'intelligence et d'amour, capables de le comprendre et capables de l'aimer. On songe à ce propos d'un mystique, faisant dire à Dieu qu'il était un trésor inconnu et qu'il a créé l'homme pour être connu. Donc Dieu conçoit sa création, et là je parle de l'ensemble de sa création et pas seulement de l'homme, mais Dieu, bien que l'homme ait une place centrale dans cette création, l'homme est le vicaire de Dieu, l'homme aura, j'en dirai un mot tout à l'heure, une place tout à fait fondamentale, centrale, non seulement du point de vue pour ainsi dire topographique, mais du point de vue actif, du point de vue du rôle qu'il sera amené à y jouer. Donc, Dieu, vie, intelligence, amour, conçoit sa création dans sa pensée éternelle. Dieu proferbe le Verbe. Il profère le Verbe qui va extérioriser sa pensée. Et le Verbe va générer ainsi l'esprit créateur. Cet esprit créateur sera la source de toute énergie. Et à cet esprit créateur, à ce Saint-Esprit, correspond une puissance passive, alors que lui-même est essentiellement actif. Une puissance passive, exotériquement désignée comme l'abîme, au sein duquel l'Esprit Saint va actualiser les eaux, maïm. Ces eaux, actualisées par l'Esprit Saint au sein de l'abîme, constitueront un principe matriciel et maternel vivant, ce que désigne très précisément la lettre Bet. Et au sein de ce principe matriciel, l'Esprit Saint, émettant la lumière, l'aour, va déclencher le rythme de l'évolution créatrice au moment voulu par Dieu, conformément aux lois célestes. Ainsi, trois grands principes vont présider à la création, le Verbe, l'Esprit, et ce qu'on appelle exotériquement les eaux, c'est-à-dire l'ensemble des possibilités d'être, de tous les êtres futurs, mais encore à l'état virtuel. Ces possibilités s'actualiseront par l'union en elles de l'essence et de la forme. Rappelez-vous l'idée de tisser une toile, le modèle de la toile. Dieu, cependant, ne sera pas lui-même l'architecte, l'entrepreneur de sa création. Il créera des puissances à cette fin d'architecture et d'entreprise de l'univers. Ces puissances seront les Elohim, correspondant au monde des essences, des principes. Adam, correspondant au monde des formes, des lois, et le serpent de la Genèse, correspondant à l'univers sensible. Ce serpent devant agir sous le contrôle des Elohim, c'est-à-dire conformément au plan, et sous la direction d'Adam, c'est-à-dire afin de réaliser les formes. En outre, en vue de réaliser l'univers sensible, il existe un principe premier énergétique, c'est celui que l'on désigne en hébreu par Aretz, et qui est le principe du mouvement. Nous allons donc avoir, en lisant ésotériquement la Genèse, le récit d'une création tripartite en deux étapes. La première étape, c'est la création à proprement parler. Création de l'invisible, de la nature naturante. La création proprement dite. Dieu crée d'abord trois grands principes cosmogoniques qui correspondent aux trois mondes. Les Elohim, que Chauvet traduit par l'angélie, c'est-à-dire les puissances effectuantes du Verbe, correspondant au monde divin créateur. Et ce monde divin créateur correspond lui-même au premier monde créé, c'est-à-dire le monde des principes, des essences, dont l'angélie a fonction d'être régisseur. Après les Elohim, l'angélie, ce sont Shamayim, c'est-à-dire les cieux, les lois célestes, contrôlés par les Elohim, par l'angélie, et régis par Adam. Ce monde des lois célestes correspondant au deuxième monde créé, le monde des lois et des formes. Troisième grand principe cosmogonique immédiatement créé par Dieu, Aretz, c'est-à-dire le principe énergétique universel et réalisateur qui est dirigé par le serpent et correspondant au troisième monde créé, le monde des formations sensibles et matérielles. ces trois grands principes cosmogoniques ayant été créés par Dieu, le Verbe va les utiliser comme intermédiaires. Il va réaliser par leur intermédiaire et grâce à une double modalité antinomique qui est celle de la condensation passive, exotériquement désignée par le soir, et de l'expansion active, exotériquement désignée par le matin. Grâce donc à cette double modalité antinomique, grâce à une puissance d'amorçage évertuante, et par l'intermédiaire des trois grands principes cosmogoniques que sont l'angélie, les lois célestes et le principe énergétique universel régi par le serpent, leur Verbe créateur, disais-je, va réaliser. Que va-t-il réaliser? Il va réaliser le monde des essences et des principes. Je n'en citerai qu'un seul de ces principes, c'est Aour. Et aussi le monde des formes substantielles et des substances formelles. Cela, c'est le tableau qui nous est raconté dans les premiers des 10 chapitres de la Genèse. Et puis, à partir du 10e chapitre, avec le 10e chapitre, le chapitre du déluge, nous passons à la deuxième étape de la création. Ça n'est plus la création à proprement parler, c'est l'effectuation. Il ne s'agit plus de nature naturante, mais de nature naturée. Et Noé, ayant remplacé Adam et le serpent, dont la chute nous aura été décrite, expliquée, qu'on nous aura appris à comprendre, Adam et le serpent donc ayant été déchus et maudits, c'est Noé qui deviendra le nouveau principe cosmogonique et qui permettra la réalisation, l'effectuation sensible de ce plan qui avait été communiqué par Dieu aux puissances et aux essences et aux différents agents chargés de le réaliser. J'indiquerai seulement pour terminer que, sans vouloir caractériser dès maintenant chacun des 10 premiers chapitres de la Genèse, nous parlerons des deux premiers. Le premier chapitre de la Genèse est à diviser, je vais vous indiquer. Au moins le contenu ésotérique des premiers. Nous avons donc d'abord le monde divin, dont la... Alors, le monde divin, première partie. Le monde divin est d'abord le livre des principes. Qui commence par un prologue. Ce sont les deux premiers versets de la Genèse. Qui se poursuit par un récit. Le prologue donnant... les noms des trois grands ordres hiérarchiques et indiquant leurs fonctions, le récit ensuite qui nous montre la vision en Dieu par l'angélie et la transposition dans l'angélie en mode intelligible temporel de l'exade, c'est-à-dire des 6 jours de la création, de l'exade des manifestations, le récit donc qui ira de 1, 3 à fin, et enfin, épilogue qui est le repos des puissances effectives dans l'unité principe, cet épilogue qui va en fait jusqu'au verset 5e du 2e chapitre de la Genèse. On nous a demandé de terminer vers 9h moins le quart. Je vois qu'il est 9h moins le quart. Peut-être aurons-nous quelques instants de grâce. Donc, je m'en tiendrai là. Et je vous demanderai, si vous le voulez bien, que nous commencions par le commencement la prochaine fois, c'est-à-dire en étudiant ce verset que vous voyez ici. Est-ce qu'il y a des questions ?
grand possible. Dans ce qui est exposé, je vois sans arrêt, j'ai entendu la création, et je n'ai pas vu ce que l'on emploie. Peut-être c'est une autre traduction, peut-être, la manifestation du principe, qui n'est pas tout à fait une création, c'est plutôt se rapprocher plus d'une doctrine d'émanation. Alors, est-ce qu'il y a création ou manifestation ?
C'est création. Ça, alors, il y a chez Chauvet une très grande crainte du panthéisme. Chauvet va même jusqu'à dire, ce qui est extrêmement discutable, que la Kabbale mène au panthéisme, et c'est une des raisons pour laquelle il la condamne. Oui, c'est extrêmement discutable. Il y a une très grande crainte. Chauvet dit bien que le monde divin est constitué par le Créateur avec l'Angélie. Enfin, on le verra la prochaine fois. La traduction de ce premier verset, n'est-ce pas, est tout à fait différente de la traduction ordinaire, car les Elohim ne sont pas créateurs, mais créés. Ce n'est pas Elohim qui crée, c'est Dieu qui crée les Elohim. Bien, mais ça, il faut analyser pour le voir de très près. Mais c'est important, car ça veut dire que c'est l'Angélie avec le Créateur qui constitue le monde divin. Indissociable, bien sûr, mais cela ne signifie pas que tout est Dieu, ni même que l'Angélie est Dieu. L'Angélie est divine, elle n'est pas Dieu. Ça, il s'agit véritablement de création au sens tout à fait classique.
Je voudrais poser une question au sujet de la lettre Vav. Pourquoi donc que ces convertibles soient lumineuses, que cela veut dire ? D'après vous,
oui. Allez, excusez-moi, je n'ai pas très bien.
J'ai lu quelque part, je me souviens plus, que la lettre Vav est convertible.
Oui.
Qu'elle soit lumineuse, que c'est un signe simple de lumineux ou convertible.
Qu'est-ce que vous entendez par convertible?
Justement, je vous demande.
Madame peut peut-être parler, elle peut faire ou.
Ah oui, bien. Ah oui,
c'est
ah,
si c'est...
Oui.
Non, on peut dire V, et puis ou.
Oui, oui, bien sûr, selon quoi, selon le point, quand on met le point, oui, ça c'est.
Pourquoi c'est un signe lumineux?
Mais ça n'affecte pas la signification idéographique.
Ah ben non.
La signification idéographique reste la même. C'est le mot convertible, je veux dire que je ne saisis pas très bien ce que.
Ben justement, moi je ne sais pas non plus, j'étudie la Kabbale.
Alors, oui.
Elle
a
moi-même. J'ai vu, justement, ça m'a donné à penser que c'est un signe lumineux, qu'il a été lumineux, qu'il a été. Est-ce qu'il est devenu. Est-ce que cette lettre est susceptible d'être convertie? S'il a été lumineux, il n'est pas. N'est-ce pas? Si on a écrit qu'il a été lumineux.
Est-ce que vous pourriez peut-être revoir et nous le dire la prochaine fois si vous venez, nous pourrions en parler.
Ah bon, c'est
bon.
Dès le début, dès l'origine, phonétiquement, avec sa signification ésotérique, ou bien est-ce que l'écriture est inventée par la suite pour lui donner une signification? Ou est-ce qu'il a une signification dès l'origine? Est-ce que c'est Dieu lui-même qui a donné une signification?
J'hésitais simplement parce que je vous donne la réponse de Chauvet. Bien, parce que sinon ça va nous engager dans une grande discussion. La réponse de Chauvet, c'est que le langage n'a pas été donné directement à l'homme, que le langage n'est pas d'origine divine, enfin, n'est pas immédiatement d'origine divine, et la réponse de Chauvet, c'est que précisément l'alphabet hébreu a été utilisé, a été constitué de manière à pouvoir transmettre cette doctrine ésotérique venant de Moïse. Chauvet disait, les 10 premiers chapitres de la Genèse sont un aide-mémoire pour les initiés. Il fallait écrire cet aide-mémoire dans une écriture codée. Cette écriture codée, ce sont les lettres hébraïques. Donc ça n'est pas effectivement, c'est une conception de la langue qui est très différente de celle qu'on trouve dans la Kabbale, ou même qu'on peut trouver dans l'orthodoxie juive par exemple. C'est-à-dire qu'effectivement il y a un côté, je dirais artificiel, de la langue hébraïque et du graphisme ésotérique hébraïque.
C'est totalement inverse, c'est totalement différent. Puisque dans la Kabbale, c'est une émanation.
Oui, mais alors, je pense. Vu que, c'est pour ça que je n'ai pas voulu parler des développements de Chauvet sur l'origine du langage, sur l'origine de la langue hébraïque en particulier. Monsieur, il revient, vous avez raison, mais j'ai fait exprès, j'ai juste fait allusion aux grandes théories qu'il développe, parce que je crois que ce n'est pas ça qui est le plus important, et c'est certainement pas ça qui est le plus incontestable. Ce sont des interprétations qu'il fournit lui-même. Je crois que ce qui est intéressant, c'est de voir sa méthode, d'essayer de l'appliquer et de voir ce que ça donne. Bon, à partir de quoi on peut parfaitement donner une autre interprétation que celle que Chauvet donne lui-même. Personnellement, je suis convaincu que Chauvet, alors parlons très très simplement, je suis convaincu, après avoir beaucoup étudié Chauvet, je suis convaincu qu'il a trouvé quelque chose. Je suis absolument convaincu qu'il y a quelque chose, je dirais presque pour des raisons expérimentales, et tout de même extrêmement frappant. Moi, l'expérience est facile théoriquement, elle prend du temps, mais enfin elle est théoriquement très facile à faire. Il n'y a pas de doute que cette méthode s'applique d'une manière efficace, et il n'y a pas de doute non plus qu'elle s'applique seulement aux 10 premiers chapitres de la Genèse. C'est absolument certain. Et que le résultat qu'on obtient, enfin je vous ai tout à l'heure donné un résumé dont je suis persuadé, une bonne partie vous a échappé, mais je le savais, je crois que c'était bien, je voulais simplement jeter comme ça un certain nombre d'idées, et aussi un certain nombre de mots, même s'ils n'étaient pas associés à des idées très claires pour vous habituer à la pensée et aux idées de Chauvet, et puis parce que tout de même ces idées évoquent immédiatement quelque chose, et c'est bon aussi. Bien, ce que je vous ai lu, et qui est une doctrine très cohérente et très conforme à la pensée traditionnelle, est véritablement, ça n'est pas du tout une extrapolation de ce que l'analyse idéographique permet de lire, c'est véritablement un résumé de ce qu'on lit avec la méthode de Chauvet. Enfin, ça n'est pas du tout quelque chose de différent, c'est quelque chose qui colle tout à fait à la lecture que l'on fait avec Chauvet. Donc je suis tout à fait convaincu qu'il y a quelque chose. Cela dit, je suis personnellement tout à fait convaincu qu'il y a des procédés kabbalistiques, au sens exact du terme, qui ont une valeur, et en ce qui me concerne, je ne partage pas la condamnation tout à fait radicale que Chauvet porte contre ces procédés. Je suis persuadé qu'il y a des procédés de permutation, des procédés qui tiennent compte de la valeur numérique des lettres qui ont leur valeur. Bon, de même, alors, je ne suis pas du tout convaincu de ce que Chauvet dit de la manière dont Daniel, avec Esdras pour secrétaire, a rédigé les 10 premiers chapitres. Je ne suis pas du tout sûr que ça s'est passé comme ça. Je ne suis pas du tout sûr que non plus les rapports entre l'hébreu et l'araméen et entre l'hébreu et le sanskrit, oui, j'en ai même pas parlé, mais je le dis maintenant, nous causons librement. Je ne suis pas du tout sûr que ce soit ce que Chauvet dit, n'est-ce pas? Mais je pense que ce n'est pas ça qui est important. Je crois que ce qui est important, c'est son idée de départ, sa méthode, de voir ce que ça donne, et puis après, évidemment, on peut se demander comment ça a pu se réaliser d'une manière historique. Mais je pense qu'il y a là, d'une part, la découverte de Chauvet, d'autre part, l'explication qu'il en a lui-même donnée, et que les deux choses doivent être distinguées. Et qu'il y a des explications de rechange. J'entends dans le domaine historique.
Chauvet doit être moins condamné, en fait, par les tenants d'une orthodoxie juive très précise que les kabbalistes qui, eux, ont été condamnés par l'orthodoxie juive. À la limite, Chauvet doit être plus accepté.
Oui, alors, je veux dire, ça, les rapports entre kabbale et judaïsme, bon, ça, on n'en parle pas si vite aujourd'hui, parce que ça nous entraînerait très loin. Alors, en ce qui concerne les rapports, il y a un point que je apporter, que je vais aborder, c'est le rapport entre, enfin, l'attitude de l'autorité catholique romaine vis-à-vis de Chauvet. À l'époque, l'abbé Berthaud avait soumis, non seulement le livre de Chauvet, mais comme lui-même avait écrit une introduction et a fait un petit volume de commentaires, et qu'à l'époque on était beaucoup plus rigoureux qu'on l'est maintenant en matière d'imprimature, enfin il avait donc soumis ces textes, et ça avait été communiqué à des professeurs d'hébreu, enfin, l'archevêché de Paris, c'était l'archevêché de Paris, il était dernière, de Paris encore, l'avait soumis à des professeurs d'écriture sainte, des professeurs d'hébreu, qui n'avaient absolument pas condamné, qui avaient estimé que c'était parfaitement publiable, mais qui n'y avaient pas non plus attaché d'importance. Ça avait été une attitude, je dirais, d'indifférence. De sorte que, d'ailleurs, l'abbé Berthaud n'a absolument pas été inquiété. Il a eu de tout petits ennuis, mais c'est dans un autre domaine. Enfin, on peut dire, ça ne touchait pas directement à Chauvet, mais Berthaud était un prêtre très, très indépendant, qui avait toujours eu, il était du diocèse d'Angers, il avait eu des ennuis avec son évêque, il était parti à Alexandrie, il avait eu des ennuis, enfin, au Caire, il avait eu des ennuis avec l'évêque du Caire, il avait été à Alexandrie, il avait eu des ennuis avec l'évêque d'Alexandrie. Et puis, finalement, il était venu ici, où il était prêtre auxiliaire à Asnières, précisément, à Notre-Dame du Perpétuel Secours, et on lui confiait des tâches tout à fait subalternes, et puis un jour il s'est mis à prêcher, il prêchait d'ailleurs fort bien, et en particulier il a prêché pendant le mois de mai, qui était le mois de Marie, je ne sais pas si ça l'est encore, mais enfin ça l'était, c'était d'ailleurs très beau, et pendant le mois de Marie, il avait prêché sur le symbolisme de la Vierge. Et le texte de cette étude symbolique avait d'ailleurs été publié par la suite, et avait fait l'objet d'un compte-rendu relativement très favorable de Guénon, qui a dit « ça fait plaisir de voir un prêtre catholique qui dit des choses pareilles », ce après quoi on l'avait prié de ne plus prêcher. Oui, je dois dire qu'actuellement, ça paraît... ça semble très anachronique. On a l'impression que vraiment, ça appartient à une époque très très révolue, parce que lorsqu'on lit ce petit livre, où il y a de très belles choses sur le symbolisme de la Vierge, le symbolisme du chapelet, du rosaire, on se rend compte que vraiment actuellement, enfin, ça ne poserait aucun problème. C'est le seul ennemi. Mais en tout cas, en ce qui concerne l'ésotérisme de la Genèse de Chauvet, il n'y a eu absolument aucune difficulté, ni pour Chauvet lui-même, ni pour l'abbé Berthaud, qui avait eu à en référer à l'autorité canonique. Maintenant, alors, en ce qui concerne les autorités israélites, alors ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'imagine, en effet, comme tu dis, mais j'imagine aussi que s'il n'y a pas les mêmes raisons de s'inquiéter que la Kabbale peut leur donner, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, à savoir que c'est même un ouvrage très chrétien. C'est un ouvrage très chrétien. Toute cette lecture de Chauvet, à la fois repose sur la réalité de la Sainte Trinité et aboutit à montrer l'universelle manifestation de la Sainte Trinité. Vraiment, le dogme trinitaire est tout à fait axial dans cette lecture de l'ésotérisme de la Genèse. Ah, aussi, bien entendu. Merci Jean-Pierre.